Bonjour, il est 14h03 sur France Inter, l'heure de retrouver 2000 ans d'histoire aujourd'hui quand le Congo était belge.
Sous la férule de la dynastie belge, un fruit a mûri. Un fruit qui n'était au départ que barbarie, jungle et étendue sauvage et qui a éclaté en une féerie de bien-être et de bienfaisante civilisation. Baudouin, roi des Belges, 1950.
Bien avant de devenir la plus grande colonie européenne d'Afrique noire, le Congo était un ancien royaume, découvert au XVe siècle par un navigateur portugais, Diego Cam. Mais ni lui, ni après lui les Hollandais, les Anglais ou les Français n'ont eu la curiosité de pénétrer à l'intérieur de ce pays dont on ne connaissait que les côtes. Pendant 4 siècles, le Congo, comme toute l'Afrique, est resté une terre inconnue. Et ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que quelques explorateurs ont commencé à découvrir l'intérieur du continent africain. Fasciné par leur récit, le roi des Belges, Léopold II, demanda au plus célèbre d'entre eux, John Stanley, d'établir un poste le long du fleuve Congo. Et c'est ainsi que pendant 80 ans, Léopold II et ses successeurs, rois d'un des plus petits pays d'Europe, sont devenus les souverains d'une des plus grandes et des plus singulières colonies du monde. Celle que les Belges étaient fiers de présenter à l'exposition universelle de Bruxelles en 1958.
Ceux qui ont organisé cette section du Congo n'ont pas voulu se contenter d'une simple et froide description. Ils ont voulu montrer sur le vif l'activité de nos territoires d'outre-mer et l'évolution remarquable qui s'y produit. J'aurai sans doute le temps de vous dire qu'un palais, celui de mission catholique, met en lumière dans cette importante section du Congo l'œuvre civilisatrice des missionnaires et qui matérialise leur action aux yeux du visiteur. Sans doute entendez-vous les tam-tams qui annoncent le début de la prestation des troubadours du roi Baudouin. Les troubadours du roi Baudouin qui ont tenu à être ici devant ce palais gouvernemental du Congo au moment où allait passer le souverain. Le roi salue. La voiture royale maintenant passe exactement devant moi.
C'était le roi Baudouin en 1958, visitant le pavillon du Congo à l'exposition universelle de Bruxelles. Le Congo était alors belge, il est devenu depuis le Zaïre et s'appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Elikia Mbokolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous êtes né au Congo quand il était belge. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, le roi des Belges, pour un Congolais comme vous?
Bon, c'était quelqu'un dont on entendait parler et qui, de temps en temps, apparaissait au Congo et dans les salles de classe, il y avait une grande photo du roi des Belges, Baudouin, qui était jeune à l'époque, puisque moi j'étais adolescent, j'étais au début des études secondaires lorsque le Congo est devenu indépendant, et en effet c'était des choses qui étaient très présentes pour nous tous, puisque la Brabançonne, l'hymne national belge, était chantée dans les écoles du Congo tous les matins par les élèves.
Alors, je ne sais pas si on vous apprenait que vos ancêtres étaient belges, peut-être, comme on apprenait.
Non, on disait que le roi Léopold II avait civilisé les Congos et l'avait sorti des ténèbres de la barbarie.
Alors, vos ancêtres, en tout cas, Elikia Mbokolo, c'était un royaume, bien avant d'être une colonie belge, c'était déjà un royaume africain quand il était découvert par un Portugais au XVe siècle.
Oui, lorsque les Portugais ont découvert le Congo, la plus grande partie de ce territoire, plus l'Angola, plus le Congo-Brazza, était à l'intérieur d'un État. Donc le royaume de Congo, dont les Portugais disaient d'ailleurs que les gens de ce royaume sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Mmh. Alors évidemment, le royaume a subi le contre-coup de toute l'histoire de l'Atlantique, hein, et en particulier la traite des esclaves. Et on peut considérer qu'à partir de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, le royaume n'existe plus.
Oui, il a éclaté en une multitude de petits États.
Oui, de chefferies, de villages... Mais dans la conscience d'un certain nombre de Congolais, le souvenir de ce royaume est resté présent, et justement au moment de l'indépendance.
Alors c'était donc une multitude de petits États à partir du XVIIe siècle, les Mbokolo, et alors totalement coupés du monde, jusqu'à ce que les Européens en général commencent à s'intéresser à l'Afrique, et que le roi des Belges, Léopold II, s'intéresse au Congo. Pourquoi s'intéresse-t-on soudain à l'intérieur du Congo, dont on faisait venir de l'or, de l'ivoire, des esclaves aussi? Et pourquoi le roi des Belges?
Le roi des Belges, Léopold II, rêvait de faire de la Belgique une grande nation. Alors, être une grande nation, ça voulait dire avoir des colonies. Donc il a essayé d'acheter les Philippines aux Espagnols, il n'a pas pu, il a tenté plusieurs aventures qui n'ont pas marché, et la chance pour lui, c'est que justement, il y a de plus en plus d'explorations en Afrique centrale dans les années 1860-70, donc il se dit, pourquoi pas, je pourrais en effet me bâtir un royaume en Afrique centrale. Mais comme il était très habile et que il savait que les grandes puissances ne laisseraient pas un petit pays comme la Belgique fonder un État. Il avait l'idée au départ de créer quelque chose comme le Libéria, donc faire appel à des Africains qui civiliseraient une partie de l'Afrique sous son autorité. Donc une philosophie apparemment humanitaire.
Oui, parce qu'il prétend vouloir abolir l'esclavage qui existait depuis des siècles.
Oui, c'est le grand mot d'ordre. Abolir l'esclavage européen qui est aboli, et l'esclavage arabe et swahili dans la partie est. Mais il était évident que il pensait aussi argent. C'est très très clair.
Et il crée en tout cas à cet effet une association internationale, l'Association internationale pour la civilisation et l'exploration de l'Afrique, l'AIC, ou qu'on appelle aussi l'Association internationale africaine, une association dont Léopold II fait appel, pour laquelle Léopold II fait appel aux plus grands explorateurs de l'époque.
Sire, je n'avais pas de plus vif désir que d'être reçu par Sa Majesté le roi des Belges.
Et par le président de l'Association internationale africaine?
Je les confonds tous les deux dans une même gratitude.
Monsieur de Brazza, je fais établir en ce moment une nouvelle carte d'Afrique. Je rêve de donner à l'État indépendant du Congo deux pôles. Monsieur Stanley et vous.
Sire, je suis officier français.
Qu'y a-t-il d'incompatible? L'État indépendant du Congo n'est-il pas le territoire de l'Association internationale africaine?
Oui, sire. Pour le moment.
Toutes les bonnes volontés peuvent s'y unir. Toutes les ambitions peuvent y être satisfaites.
C'était l'extrait d'un vieux film de Léon Poirier, Brazza, l'épopée du Congo. Savion de Brazza qui a refusé, Eliki Mbokolo, de travailler pour le roi des Belges, et qui, de son côté, pour le compte de la France, a découvert, puis colonisé, enfin créé ce qu'on appelle le Congo Brazza, le Congo français, au nord du fleuve Congo, tandis que au sud, c'est Stanley, donc, qui va créer l'immense Congo. Il faut rappeler qu'il était quand même 80 fois plus grand que la Belgique. Et donc, pour le compte, Stanley, pour le compte du roi des Belges.
Oui, c'est une aventure remarquable, parce que Brazza part de Franceville, du Gabon aujourd'hui, jusque à ce qu'on appelle le Stanley Pool, le fleuve Congo, et Stanley, lui, part de Zanzibar. C'est une épopée incroyable, et traverse tout le continent de l'autre côté vers l'ouest, et les deux hommes vont se rencontrer au pool. Léopold II aurait voulu avoir Brazza de son côté, et évidemment il n'a pas compté sur le fait que Stanley était prêt à vendre ses services, alors que Brazza avait une vision plus nationale et nationaliste de ses expéditions.
Alors Stanley va installer un poste, il va signer des traités un peu ambigus avec 400 chefs de tribus africaines, enfin du Congo, et puis c'est comme ça qu'est né ce qui n'est pas ce qui sera le Congo belge, puisque les frontières vont en être définies comme beaucoup d'autres colonies par le traité, la conférence internationale de Berlin, où on définit les limites de ce qui n'est pas vraiment une colonie. On l'a entendu, c'est un État indépendant en réalité. Eliki Mbokolo, c'est la propriété personnelle du roi des Belges, de Léopold II.
Oui, absolument, c'est incroyable que les Bismarck, le chancelier de l'Allemagne, et tous les grands hommes qui était là, et conçu cette chose juridique étonnante, donc une colonie dont la Belgique n'est pas propriétaire, et qui est la propriété du roi des Belges. En fait, je crois que et Bismarck, et à la même époque, Jules Ferry espérait bien bien que Léopold II n'irait pas jusqu'au bout de son entreprise coloniale et que le moment venu, cette colonie pourrait tomber entre les mains de l'une de ses puissances. Bismarck y a cru pendant longtemps, Jules Ferry y a cru aussi. Évidemment, c'était sans compter sur l'habileté manœuvrière de Léopold II qui a réussi à conserver ce royaume. Enfin, cet État indépendant pour lui.
Pour son compte personnel, oui.
Avant de le
céder à l'État belge.
À la Belgique.
Et à financer avec ses propres deniers le début d'une mise en valeur du Congo. Je crois que c'est à l'époque de Léopold qu'on a commencé à construire des voies ferrées qui sont très importantes pour pénétrer évidemment à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien sûr du caoutchouc, on trouve de l'ivoire. On trouve déjà les premières mines dans le Katanga, hein, les mines de cuivre, de diamants, d'or. Au fond, il est très intéressé, Léopold. Mais cela dit, c'est pour ça qu'il voulait coloniser le Congo.
Oui, au fond, bon, il est vrai qu'il a beaucoup dépensé de sa propre poche, c'est clair. Mais il voulait aussi rentrer dans ses fonds et, si possible, faire des bénéfices. Donc, l'ivoire se vendait beaucoup au XIXe siècle en Europe. Sa grande chance a été, en fait, le démarrage de l'industrie automobile, qui va donner au caoutchouc une importance qu'il n'avait pas auparavant. Et donc, propriétaire de ce grand domaine, il va déclarer que tous les produits de ce domaine lui appartiennent. Et donc, demander que les indigènes fournissent un certain nombre de journées de travail pour la recherche du caoutchouc et la recherche de l'ivoire.
Voilà, parce qu'effectivement, si Léopold II, comme il l'avait voulu, abolit l'esclavage, eh bien, il a imposé aux Congolais un régime aussi inhumain, dénoncé dès la fin du XIXe siècle par des voyageurs de passage, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, dès la fin du XIXe, des voix s'élèvent pour condamner le régime colonial instauré par le roi des Belges. En 1890, par exemple, un pasteur noir américain, George Washington Williams, horrifié par le travail forcé qu'il a vu au Congo, publie une lettre ouverte à Léopold II. « L'administration de votre majesté achète, vend et vole des esclaves », affirme Williams, qui n'hésite pas à parler de crimes contre l'humanité. Alors le roi Léopold, lui, justifie ainsi le travail forcé. Quand on traite avec une race composée de cannibales depuis des milliers d'années, il est nécessaire d'utiliser des méthodes qui secouent au mieux leur paresse et leur font comprendre l'aspect sain du travail. Voilà. D'autres témoignages sur le transport de l'ivoire au Congo sont accablants. Incessamment, raconte un sénateur belge, nous rencontrons ces porteurs noirs en file indienne, misérables, chétifs, une charge sur la tête, caisse, ballot, point d'ivoire, cédant sous le fait, les yeux hébétés d'épuisement, ils vont et viennent ainsi par milliers, crevant le long de la route. Un agent belge a même recueilli le témoignage d'une femme africaine, Ilanga, enlevée avec le reste de son village par des soldats. Ils ont fait irruption, en hurlant dans les maisons, dit-elle. Ils nous ont traînés sur la route, liés avec des cordes autour du cou. Nous pleurions, car nous savions que nous allions être emmenés comme esclaves. À l'ivoire va bientôt s'ajouter donc l'exploitation du caoutchouc, très difficile à exploiter pour forcer les Noirs à ce travail très dur. Les Belges n'hésitent pas à prendre des femmes en otage. Un manuel du voyageur au Congo, c'est incroyable, donne même la méthode à suivre. En Afrique, lit-on, faire des prisonniers est facile, car si les indigènes se cachent, ils ne vont pas très loin. Il suffit de surveiller les jardins où ils seront obligés de venir pour chercher de la nourriture. En autre pratique très courante, la mutilation des mains, notamment les mains droites. Pratique dénoncée par un autre pasteur noir américain, William Shepherd. En arrivant dans un village dévasté, dit-il, le chef nous conduisit à un feu où brûlaient des mains droites. Je les ai comptées, il y en avait 81. Alors, dans les années 1900-1905, le roi Léopold doit faire face à un flot grandissant de critiques, de campagnes de presse, menées notamment par un journaliste anglais, Edmund Dean Morrell, effaré par les énormes bénéfices accumulés au Congo. J'étais tombé, dit-il, sur une société secrète d'assassins chapeautée par un roi. Alors, l'écrivain américain Mark Twain, connu surtout pour ses célèbres aventures de Tom Sawyer, écrit lui-même un pamphlet, le soliloque du roi Léopold. « Durant ces 20 dernières années, fait-il dire à Léopold, j'ai dépensé des millions pour réduire la presse au silence. Et pourtant, il continue d'y avoir des fuites. »
C'est effrayant, ces textes de Likem Bokolo. C'était plus l'esclavage, mais c'était presque pire ce qui se passait à l'époque léopoldienne au Congo.
Ah oui, on a l'impression que c'est l'horreur absolue. Bon, les chiffres sont toujours toujours un peu controversé, mais on estime à partir de Stanley qu'il y aurait eu au Congo en 1885 environ 20 millions d'habitants, et à la fin du régime léopoldien en 1908, on pense qu'il y en avait 10 millions. Et donc l'idée de la notion de crime contre l'humanité a été utilisée à ce propos, et un certain nombre de gens avaient proposé qu'un tribunal international juge le roi des Belges Léopold II, puisqu'il faisait exactement le contraire de ce qu'il avait promis, de ce que ses agents avaient promis à la conférence de Berlin.
Est-ce que c'est pas la raison aussi pour laquelle cette indignation internationale, Léopold II a cédé au fond le Congo, son Congo, hein, son soi-disant État indépendant du Congo, à l'État belge? C'est ainsi que le Congo est devenu le Congo belge en 1908.
Oui, c'est l'une des raisons les plus importantes, parce que les autres États souhaitaient avoir affaire non pas à une personne, un monarque, mais avoir affaire à un État qui peut être contraint par la voie des traités. Et alors, très habile Léopold II, pour céder le Congo à la Belgique, a exigé à la Belgique qu'on lui donne encore de l'argent. Hein, donc l'argent est vraiment au cœur de cette entreprise qui, pour moi, est dans l'époque moderne, probablement la colonisation la plus dure et certainement l'une des colonisations les plus atroces.
Avec quelques nuances quand même. Par exemple, le rôle très important des missionnaires, qui étaient les seuls finalement à apporter, d'abord il y a eu aussi la médecine qui a fait des progrès, et les seuls, eux, les missionnaires, à apporter l'éducation, même si très peu d'Africains pouvaient en bénéficier, à l'Ikem Bokolo.
Oui, les missionnaires, surtout belges et surtout catholiques, parce que les missionnaires protestants étaient contre le régime léopoldien. C'est surtout des missionnaires belges et des missionnaires catholiques, pour la plupart d'ailleurs flamands, qui vont créer un réseau assez dense d'écoles primaires, juste primaires, parce que on ne souhaitait pas produire des intellectuels au Congo. Et l'idée des Belges, comme de Léopold II, c'était que si on ne veut pas avoir d'ennuis, eh bien il ne faut pas fabriquer des élites.
Mais on a quand même fabriqué, malgré soi, si je puis dire, des élites, et donc quelques grandes figures de la lutte pour l'indépendance du Congo, comme Patrice Emery Lumumba.
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vœu honorable était réservé au seul blanc. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
Afrique, Afrique, oui, Afrique, où résonne le tam-tam de la liberté. Liberté, liberté, oui, liberté, liberté au pays d'Afrique. Liberté, liberté, oui, liberté, liberté au pays d'Afrique. Emery, Emery, oui, Emery, Lumumba, héros national. Emery, Emery, oui, Emery. André, oui, André Matsoua, héros national.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le Congo belge.
Et c'était une très belle chanson dédiée à Lumumba, un des héros du combat pour l'indépendance. Et l'Ikem Bokolo, dont on a l'impression que ce combat a commencé très tard. On a l'impression qu'il n'y a pas de revendication d'indépendance avant la Deuxième Guerre mondiale.
Non, au contraire, parce que la force publique est créée officiellement en 1888, avec comme mandat justement de lutter contre les rébellions. Et puis dans une deuxième phase, à partir de la première Première Guerre mondiale, l'une des choses les plus remarquables, c'est comment la religion chrétienne, réinterprétée par les Africains, va devenir un outil d'émancipation sous l'impulsion d'un prophète, Simon Kimbangu, qui va expliquer que les hommes ont été créés par Dieu, donc ils sont égaux devant Dieu, et donc il n'y a aucune raison que des Blancs, des étrangers, viennent au Congo pour dominer les Noirs. Et d'ailleurs, en quelques mois, en 1921, il a mobilisé des centaines de milliers de personnes, et évidemment, il a été arrêté, condamné à mort, et le roi des Belges, Albert Ier, a commué sa détention a commué sa peine de mort en détention à perpétuité, et il est mort en prison, et le kimbanguisme est devenu aujourd'hui la deuxième religion du Congo.
Il est mort en 51, je crois.
Il est mort en 51.
Et alors bon, il y a eu la guerre. La guerre, d'ailleurs, on a mêlé la Belgique a mêlé le Congo. La Belgique libre, hein, parce que il est resté du côté des Alliés, si je puis dire. C'était très important parce qu'il apportait beaucoup en matière première aux Alliés, Likem Bokolo. Et alors, au lendemain de la guerre, bien sûr, l'ensemble des colonies revendiquent leur émancipation, l'indépendance. Est-ce que c'est pas ça qui a encouragé ce mouvement d'indépendance au Congo après la guerre?
Ah si si, certainement. La guerre a été une rupture. Bon, je dirais juste que en ce qui me concerne, mon père a été recruté pendant la guerre et a fait la guerre en Éthiopie d'abord et puis en Birmanie contre les Japonais. Donc il a traversé l'Inde avec pas mal de ses amis. Donc lorsque ces gens reviennent de ces pays étrangers, ce ne sont plus les mêmes hommes. Ouais. Ils demandent de l'indépendance.
L'Inde qui l'obtient en 47.
L'Inde qui l'obtient en 47. Ouais. Et donc il y a eu toute une série d'insurrections au lendemain de la guerre. Les Belges, je crois, n'ont pas mesuré la profondeur du mouvement, pensant que c'était simplement un phénomène de la très petite minorité de l'élite cultivée.
Incarné d'ailleurs par quelques partis indépendantistes, il y a les modérés du PNP, le Parti National du Progrès, qui eux disaient l'indépendance, mais on gardera les Européens après. D'ailleurs, du coup, les radicaux appelaient le PNP le Parti des Nègres Payés. Hein, les radicaux, c'était les partisans d'une indépendance justement brutale avec la Belgique. Il y avait deux mouvements, je crois, l'ABACO de Joseph Kasavubu et le MNC, le Mouvement National Congolais de Patrice Lumumba.
Oui, l'ABACO qui justement renvoyait à ce fameux Royaume du Congo d'autrefois, qui était un parti, je dirais, ethnique, régional. Alors que le mouvement national congolais était un mouvement national qui s'inspirait d'ailleurs beaucoup des idées panafricaines et anti-impérialistes de Kwame Nkrumah au Ghana. Et ces deux partis ont été véritablement les deux partis qui ont accéléré le processus d'indépendance, parce que en 1956, un professeur belge a parlé de 30 ans pour l'indépendance du Congo, et la majorité des Belges pensaient que 30 ans c'était encore trop peu de temps. Et donc, grâce à ces deux parties, l'indépendance s'est faite finalement en très peu de temps. D'ailleurs, il faudrait ajouter que Kinshasa est en face de Brazzaville. Mmh. Les Congolais, il y avait à Kin, l'avenue la plus importante s'appelait la rue Charles de Gaulle.
Ah, et ouais. Donc, ça, ah oui, il y avait le fameux discours de Brazzaville.
Oui, il y avait tout ce que de Gaulle faisait à Brazza. Ouais. Et donc, les gens savaient que les frères en face étaient en train de devenir indépendants. Et donc, pourquoi pas nous?
Puis il y avait l'indépendance du Ghana en 57, l'indépendance de la Guinée française en 1958. Est-ce qu'il y avait beaucoup, parce que ça aurait pu freiner, est-ce qu'il y avait beaucoup de Belges? Est-ce que c'était une colonie de peuplement, le Congo?
Pas vraiment dans la totalité d'une colonie de peuplement. Il y avait beaucoup de Belges, donc des formes de peuplement au Katanga, donc la région minière la plus riche, et à l'est du Congo, dans le Kivu. Mais je dirais que par rapport à l'encadrement des indigènes par les Belges, encadrement par les administrateurs et par les missionnaires, le Congo avait le taux d'encadrement le plus important.
Alors les Belges qui ont eu très peur, en 1959, il y a une grande manifestation, le 4 janvier 59, à Léopoldville, hein, ça s'appelait comme ça à l'époque, et qui a contraint le roi des Belges, inquiet, à accepter justement cette indépendance. Le 13 décembre 59, il dit très bien, nous allons procéder à la passation de pouvoir, en quelque sorte. On procède d'abord à des élections législatives qui marquent une victoire du MNC, de Lumumba, à l'élection d'un président qui est Kasavubu, d'un premier ministre qui est Patrice Lumumba, Lumumba qui, après le roi des Belges et Kasavubu, proclamait l'indépendance de son pays le 30 juin 1960 à Léopoldville.
Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais, Dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.
Quand c'était Patrice Lumumba à Léopoldville proclamèrent l'indépendance du Congo devant le roi des Belges en parlant des méfaits du colonialisme, ce qui était évidemment ce qui a beaucoup choqué à l'époque le roi des Belges, et un Congo qui tout de suite d'ailleurs sombre dans l'anarchie. Il est indépendant, mais il y a tout de suite une révolte de l'armée qui se soulève, des Européens qui sont massacrés, le Katanga qui fait sécession et Lumumba lui-même qui sera tué en janvier 61. Au fond, c'est comme si cette indépendance avait été bâclée un petit peu. On pas préparé les élites, et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, 44 ans après l'indépendance du Congo, il reste beaucoup de traces au Congo, à la République démocratique du Congo, à l'ex-Congo belge, de l'époque coloniale, Nikem Mokolo?
C'est curieux, il reste deux choses assez contradictoires. D'une part, le fait que Lumumba a été proclamé et par Mobutu, et par Kabila père, et par Kabila fils, héros national, donc c'est la reconnaissance de la lutte menée par les Congolais. Mais d'un autre côté, les Congolais semblent avoir oublié les horreurs de l'époque coloniale, puisque dans l'opinion populaire, les Belges sont appelés les noko, c'est-à-dire les oncles des Congolais, avec tout ce qu'il y a d'affectueux et de respect que la notion d'oncle peut comporter dans les sociétés africaines.
Merci Elika Mbokolo d'avoir parlé de cette période où le Congo était belge, et que l'on retrouve aussi dans votre livre, Une histoire de l'Afrique en deux volumes, Afrique noire, histoire et civilisation, publié chez Attier. Je signale également un livre, Le Congo et l'art belge, de Jacqueline Guisset, un très beau livre publié aux éditions La Renaissance du Livre. Vous avez pu entendre des extraits du coffret d'archives Afrique, une histoire sonore, 1962-2000, coédité par RFI Alina et auquel vous avez participé, Elika Mbokolo avec Philippe Saint-Denis, ainsi qu'un extrait du film Brazza, l'épopée du Congo, un film de Léon Poirier, édité par l'excellente maison d'édition, Les Documents Cinématographiques. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Riotor et Henri Berec, documentation et archivina, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne.